Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la Tunisie. 7 ans après la révolution, nombreux sont les Tunisiens à être déçus de la transition démocratique censée apporter davantage de prospérité. Une certaine nostalgie est perceptible, non des années Ben Ali, mais de son prédécesseur, Habib Bourguiba, qui gouverna le pays durant 30 ans jusqu'en 1987. Regard sur le seul pays arabe à être qualifié de libre par Freedom House, mais où la transition démocratique semble paralysée ou en panne et l'économie loin d'avoir atteint les espérances. Nos invités, Anne-Clémentine Larocque, spécialiste des relations internationales, maître de conférences à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages et le dernier qui vient de sortir, L'islamisme au pouvoir, Tunisie, Égypte, Maroc, aux presses universitaires de France. Bonjour.
Bonjour.
Sophie Bessis, chercheuse associée à l'IRIS, historienne et spécialiste du Maghreb. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Yves Moisseron, directeur de recherche, économiste à l'Institut de recherche pour le développement et rédacteur en chef de la revue Maghreb Machrek. Bonjour.
Bonjour à vous.
Le 7e anniversaire de la révolution en Tunisie s'est inscrit dans un contexte de vives tensions sociales. Les 9 gouvernements qui se sont succédés depuis 7 ans ne sont pas parvenus à raviver l'économie. Pauvreté, chômage, corruption qui furent à l'origine de la chute de la dictature sont toujours là, aggravés par un pouvoir d'achat sans cesse grignoté, soit par l'inflation, soit par des hausses d'impôts. On a parlé de modèle à propos de la Tunisie. Ce qui se passe témoigne-t-il de notre incapacité à voir ou notre faculté à mal nommer les choses, Sophie Bessis?
Je voudrais d'abord dire que les hausses d'impôts depuis 7 ans n'ont pas été très importantes. C'est dans la loi de finances de cette année qu'elles sont le plus importantes. Et les Tunisiens, et en particulier les syndicats, une grande partie de l'opinion demande une réforme fiscale très importante qui n'a jamais eu lieu en réalité. Et nous avons en Tunisie une fiscalité plutôt inique qu'il faut complètement remanier et remodeler. Maintenant, est-ce que la Tunisie est un modèle, puisque c'est la question que vous posez? Vous avez des réponses différentes à ces questions. 2 types de réponses, si vous voulez. Oui, la Tunisie est un modèle dans la mesure où il s'agit du seul pays arabe qui, après ce que l'on a appelé les printemps arabes, connaît qu'un cas, mais connaît quand même un processus d'installation d'un régime démocratique. Donc, ce qui tranche évidemment avec les autres pays qui ont connu ce qu'on appelle les printemps arabes, si l'on parle de l'Égypte, de la Syrie, de Bahreïn, enfin, tous ces pays-là sont retombés soit dans des dictatures, soit dans des guerres, sans parler de la Libye, évidemment. Et vous avez l'autre lecture des choses qui dit la Tunisie ne peut pas être un modèle pour le monde arabe dans la mesure où elle a une singularité, une spécificité à l'intérieur de ce monde que l'on appelle arabe, qui lui interdit d'être un modèle dans la mesure où depuis très longtemps, sa trajectoire est totalement différente de celle des autres pays. Et ayant une trajectoire différente, elle connaît aujourd'hui, évidemment, une expérience de type différent qui ne serait pas reproductible dans le reste de ce qu'on appelle le monde arabe. Voilà un petit peu les 2 écoles.
Alors, je vous demande de réagir, Anne-Clémentine Larocque et Jean-Yves Moisseron, avec cette question aussi, qu'est-ce qui fait la singularité, la spécificité et une trajectoire différente pour la Tunisie aujourd'hui? Anne-Clémentine Larocque.
Alors c'est vrai que, je rejoins Madame Bessis, hein, on est vraiment dans le cadre d'un pays qui a voulu, quelque part en tout cas, qui on a fait porter en tout cas une représentation du modèle, du laboratoire démocratique, etc. Notamment pour la France. Je pense que la Tunisie porte bien en fait l'espoir qu'on a pu mettre dans ce qui s'est passé depuis 2011, dans la mesure où elle a su faire preuve quand même de communication à l'égard justement des pays occidentaux pour expliquer ce qui se passait. La communication n'a pas été rompue non plus avec les pays de la région. Les Tunisiens, je les ai trouvés, justement, on peut les trouver assez humbles par rapport à ce qu'ils mettent en place. Et ils n'ont pas fait d'annonce, je veux dire, qui était justement révolutionnaire. Ils ont essayé de montrer qu'ils s'adaptaient et qu'ils étaient tout à fait inexpérimentés par rapport à ce nouveau pouvoir mis en place. Donc, dans ce sens-là, c'est quand même une exception et un exemple. Après, moi, je pourrais parler évidemment de l'islamisme en particulier. Il y a eu aussi une trajectoire tout à fait différente, hein, puisque Ennahda, donc le parti islamiste de Rachid Ghannouchi, a su faire montre aussi, encore une fois, de pragmatisme, d'adaptabilité et d'ouverture. Encore dans les derniers événements, on se rend compte quand ils acceptent évidemment l'idée d'une extrême gauche qui puisse justement venir dans le gouvernement.
Alors on parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission de Ennahda qu'évoquait à l'instant Anne-Clémentine Larocque. Sophie Bessis, vous souhaitez réagir? Après ça, je passe la parole.
Non, juste pour une chose, effectivement, je crois qu'il faut pas oublier, parce que vous parliez de modestie des Tunisiens, faut pas oublier qu'il y a un langage tout à fait différent, usage interne à usage des Occidentaux, c'est pas le même.
Oui, il y a une communication.
Même. Donc, effectivement, il y a une certaine modestie vis-à-vis des Occidentaux, encore que les Tunisiens réclament, si vous voulez, auprès des Occidentaux, oui, que l'on finance leur rente démocratique. Hein, c'est une réclamation depuis 7 ans qui est extrêmement importante et qui est récurrente dans le discours diplomatique tunisien. Mmh. Voilà, nous sommes les seuls démocrates du monde arabe, donc vous devez financer cette expérience. En revanche, les dirigeants actuels de la Tunisie n'ont pas du tout un langage modeste à usage interne, absolument pas, hein, au contraire.
Je parlais des Occidentaux. Hein.
Voilà.
C'est-à-dire, c'est quoi ce langage?
Or, pour la Tunisie, je veux dire, le message vis-à-vis des Occidentaux est totalement secondaire pour les Tunisiens. C'est pas ça qui importe aux yeux des Tunisiens, c'est pas le message. Ça importe vis-à-vis des Occidentaux, certes, mais les Tunisiens s'en fichent un peu du message.
Si ce n'est par rapport à l'aide qu'ils demandent financièrement.
Voilà. Oui, ça, ce sont les responsables. Si vous voulez, vous avez eu deux discours successifs des responsables vis-à-vis de l'opinion tunisienne. D'ailleurs, les responsables ayant changé, évidemment, au cours de ces 7 dernières années. Le premier, ça a été, regardez, nous sommes en train de construire une démocratie, et cette démocratie engage des difficultés. Et vous avez eu le discours de Nahda disant, cette démocratie, nous allons en faire une démocratie islamique. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse là d'un discours d'ouverture, hein, même si, là encore, à usage externe, vous avez un discours d'ouverture. Le parler de Nahda, vous le savez très bien, en anglais, et le parler de Nahda en arabe n'est pas le même, bien sûr. Et troisièmement, aujourd'hui, vous avez un petit peu un discours de restauration, qui n'est pas un discours modeste non plus, en disant, voilà, maintenant, la révolution, c'est un mauvais souvenir, on va mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà un petit peu les trois étapes, disons, du discours. Et aujourd'hui, le discours qui domine, c'est le président de la République a même dit il y a quelques mois, la révolution est une parenthèse de haine et de désordre. C'est ainsi qu'il a qualifié la révolution, ce qui est quand même pas très gentil pour le processus des démocratisations tunisiennes. Et nous allons mettre de l'ordre dans tout ça. Il faut oublier cette parenthèse de haine et de désordre.
Alors, la révolution, une parenthèse, qu'est-ce qui s'est passé au début de l'année? Des manifestations, Jean-Yves Moisseron, je me tourne vers vous. Les manifestants avaient des revendications, on peut les rappeler, en tout cas des questions économiques qui étaient à l'avant-poste de tout ce mouvement. La situation actuelle, est-ce que on peut parler d'une nouvelle révolution? En tout cas, ce à quoi on est confronté, c'est à une situation plus complexe qu'elle ne l'était en 2011.
Je crois que ce qui se marque aujourd'hui, c'est la spécificité de la Tunisie aujourd'hui. C'est à la fois des progrès en matière de construction démocratique et d'état de droit. Ça, c'est relativement évident, probablement durable. Il faut toujours se méfier des caractères réversibles des révolutions. Mais disons qu'on voit des forces politiques consensuelles, une société très spécifique qui font que le projet démocratique, la construction de l'état de droit est un projet tout à fait solide, ancré, évidemment avec des progrès à faire, hein, des choses à consolider, notamment sur les institutions démocratiques qui doivent accompagner la démocratie formelle. Mais en même temps, un espoir qui a été suscité par cet élan révolutionnaire et une déception complète sur le plan économique. Alors, ce qui se passe, c'est simplement qu'il y a une transformation sociale du point de vue politique et il y a une espèce de continuité dans le modèle économique, ce qu'on appelle le régime de croissance, les spécificités économiques de la Tunisie. Alors, pas développé, mais par exemple sur les modes d'insertion de l'économie de la Tunisie au niveau international, la Tunisie s'est toujours positionnée sur une espèce d'insertion reposant sur de la sous-traitance de bas de gamme, qui n'offre évidemment pas de perspective, par exemple aux jeunes diplômés qui rentrent sur le marché du travail, qui ne bénéficient pas d'apports ou de transferts technologiques importants, qui ne positionnent pas la Tunisie justement sur les secteurs dynamiques, d'innovation, etc. Et donc ça, c'est un des exemples qui ne change pas, mais il y en a beaucoup. On a parlé du système fiscal tout à l'heure, un système fiscal qui repose essentiellement sur les salariés, beaucoup du secteur public, un secteur public qui est extrêmement important, puisque c'est un mode de régulation de la contestation sociale, hein, d'embaucher des fonctionnaires, etc. Donc on a un modèle économique en plus dégradé, parce qu'il y a une baisse du tourisme, il y a une baisse de l'investissement, il y a une défiance vis-à-vis de l'avenir, mais ça s'explique tout ça par un régime à la fois social et politique qui marque une très profonde finalement permanence dans les structures économiques et qui n'est pas déconnecté d'ailleurs de ce qui se passe en termes de sociologie politique. Je ne parle pas de la révolution démocratique formelle, mais de la façon dont on se répartit le pouvoir, comment les élites se répartissent le pouvoir et s'arrangent, et l'ensemble des pactes sociaux qui font à la fois la stabilité et en même temps une espèce de difficulté à progresser sur le plan économique.
Alors, si je vous ai bien compris, Jean-Yves Moisseron, ce à quoi on assiste finalement, c'est une sorte de volonté que cette transition démocratique avec l'évolution économique ne se fasse pas de manière aussi profonde et carrée qu'attendue.
Alors, ça mériterait de longs développements, mais on peut dire que la construction de la démocratie formelle et l'état de droit en Tunisie aujourd'hui permet malgré tout une continuité dans la répartition des pouvoirs entre, disons, les forces économiques et politiques de l'élite tunisienne, et qui se fait malheureusement au détriment de la population, qui se fait au détriment des salariés, avec des salariés qui sont certes protégés, mais en même temps mal payés, avec au fond une négligence envers notamment envers la jeunesse. La façon dont on assoit son pouvoir économique en Tunisie, les arrangements qui se font entre la bourgeoisie, entre guillemets, avec l'État, avec les hauts fonctionnaires, etc., avec les familles dominantes, que ce soit dans les domaines de l'économie, de l'agriculture, etc., conduit à un pacte social, un type d'arrangement tacite ou pas forcément explicite, hein, mais qui conduit de toute façon à un système où les jeunes, notamment les jeunes diplômés, ne trouvent pas d'emploi. Et ça, c'est dramatique parce que ce qui était un avantage pour la Tunisie, c'est-à-dire la formation de sa jeunesse, ses qualifications, son haut niveau d'études, qui est aussi une spécificité dans le monde arabe, et qui était un avantage déterminant pour sa capacité à se projeter dans l'avenir, devient au contraire, du fait de ces arrangements politiques, un obstacle. Et donc, il faut une deuxième révolution, si je puis dire, c'est-à-dire la révolution économique, un changement majeur des structures économiques, du mode de régulation, etc., mais qui suppose quelque chose, qui suppose une remise en cause ou une remise à plat d'un certain nombre de privilèges qui sont aujourd'hui les bases et les structures de la répartition du pouvoir en Tunisie.
Alors, ces arrangements qu'évoquait à l'instant Jean-Yves Moisseron, Sophie Bessis, ils expliquent aussi que l'UGTT, le syndicat majoritaire, n'a pas vraiment soutenu la mobilisation sociale de ce début d'année.
Non, je crois qu'on peut traiter l'UGTT de façon différente. Pour revenir à ce que vous disiez, moi je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, en précisant peut-être que cet épuisement du modèle économique tunisien remonte à la dictature de Ben Ali. Ce n'est pas un phénomène post-révolutionnaire. On peut dire que cet épuisement du modèle socio-économique tunisien remonte au début des années 2000, à la fin des années 1990, où effectivement, le modèle économique fondé sur des industries très grosses consommatrices de main-d'œuvre, de biens manufacturés pour l'exportation, mis en place au début des années 70 en Tunisie, a commencé à s'épuiser. Avec ce modèle mis en place au début des années 1970, avait été mis également en place une sorte de pacte social avec l'UGTT, avec le syndicat, qui a été rompu à plusieurs reprises, mais enfin, qui avait été mis en place. Et depuis l'indépendance, il y avait aussi une sorte de méritocratie républicaine et d'ascenseur social qui fonctionnait plus ou moins. Et le régime clientéliste très corrompu de Ben Ali a mis à plat ce modèle. Et ce modèle a été mis à plat pour des raisons, si je puis dire, internationales, c'est que la Tunisie s'insérait de façon obsolète, si je puis dire, en fonction de ses capacités économiques dans la division internationale du travail, et pour des raisons internes. Et là, les régimes post-révolutionnaires ont hérité de tout cela. Et n'ont rien remis en cause de ce modèle. Parce que je crois que ce qui caractérise la classe politique tunisienne actuellement est son manque absolu d'imagination économique, son court-termisme, c'est-à-dire qu'on ne voit aucun programme au-delà d'un an. Donc il n'y a aucun programme qui permette de dire que peut être la Tunisie compte tenu de ses capacités, compte tenu de ses contraintes, compte tenu de sa position géographique, dans 10 ans, dans 15 ans. Au contraire, quand un ministre, ça s'appelait de la coopération internationale du développement, je crois, en 2016, avait proposé un plan 2016-2020, c'était Yassine Brahim, tout le monde avait crié merveille en disant c'est un plan à long terme, c'est-à-dire qu'on prend 2020 pour du long terme en Tunisie, ce qui n'est pas pertinent du tout. Alors, en fait, il y a aujourd'hui plusieurs problèmes. Le secteur public dont vous parliez n'est pas seulement un élément de régulation sociale. Effectivement, on a beaucoup trop recruté, mais c'est un élément de constitution d'une clientèle politique également. Oui. C'est-à-dire que le parti Ennahda, du temps qu'il était au gouvernement aux affaires, entre novembre 2011 et la crise de l'été 2013, a recruté plus de 100 000 employés du secteur public. Ce qui lui a permis de renforcer sa base sociale, de renforcer sa clientèle.
Et ça, c'est assez typique.
La Tunisie le paye. Deuxièmement, puisque vous me posiez la question de l'UGTT. L'UGTT, effectivement, a plusieurs figures aujourd'hui, je pourrais dire, en Tunisie. D'abord, là, une figure historique. C'est un syndicat qui a une puissance, une popularité, une légitimité qui n'existe pas dans le reste du monde arabe, et ça, effectivement, c'est un des pans de la singularité tunisienne. Deuxièmement, bon, l'UGTT, dans un pays de 11 millions d'habitants, a presque 1 million d'adhérents, ce qui est considérable.
Proportionnellement énorme.
Ce qui est considérable. Mais l'UGTT a, d'un côté, une responsabilité politique, si je puis dire, puisqu'elle a fait partie, en 2013, de ce que l'on a appelé le quartet, qui a été d'ailleurs primé par le comité Nobel, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2015, donc pour sortir de la crise extrêmement grave dans laquelle était la Tunisie, était plongée la Tunisie en 2013. Donc rôle politique, mais rôle socio-économique, mais tentations corporatistes également, parce que vous avez à l'intérieur de l'UGTT également des tentations corporatistes qui bloquent son analyse parfois de la situation socio-économique et sociopolitique. Mais il semble que dans les événements qui ont eu lieu depuis une quinzaine de jours en Tunisie, effectivement, le GTT a voulu jouer un rôle régulateur et n'a pas poussé au feu, incontestablement.
Alors, tout ce qu'on a évoqué depuis le début, Anne-Clémentine Larocque, on peut peut-être ajouter aussi que finalement, le président actuel de Tunisie, on le qualifie d'homme du passé, qui gère les crises du pays par les méthodes du passé, son âge contribuant à cet état d'esprit, Anne-Clémentine Larocque.
Ben oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on a des dirigeants qui aujourd'hui, on parle aussi pour l'Assemblée nationale, c'est la même chose, qui sont très âgés, qui n'incarnent pas forcément donc un espoir important, un dynamisme évident, et ça contribue aussi, je pense, à évidemment bloquer en fait, en tout cas les possibilités et les représentations de possibilités que les Tunisiens peuvent avoir. Pour encore une fois revenir sur le parti Ennahda, c'est à peu près la même chose aussi. Rachid Ranouchi est encore le leader, en tout cas médiatiquement, et c'est vrai que ça a contribué aussi à créer des dissensions, voire une dislocation à un moment donné, entre les bases du parti Ennahda, qui, certes, s'est peut-être justement appuyé sur de nouvelles personnes, mais qui en même temps, en fait, a fait fuir d'autres, dans la mesure où les positions d'Ennahda ont fait que, eh bien, les plus salafistes, entre guillemets, en sont partis, et les plus jeunes aussi. Parce que c'est pas les mêmes générations. Et je pense que le problème de la génération en Tunisie est quand même très important quand on lit ce qui se passe actuellement, à tout niveau, politiquement aussi. Vous avez donc des gens qui n'ont pas vécu les mêmes choses. Pour reparler des islamistes, c'est la même chose encore une fois. Vous avez des gens qui ont été emprisonnés et qui se sont exilés, qui ont changé leur discours, alors qu'une jeunesse tunisienne, conservatrice peut-être et islamiste sûrement, était en train d'évoluer avec d'autres références et d'autres référencements. Et c'est vrai que, c'est pareil, Rachid Ranouchi ne représente pas véritablement aujourd'hui ce que pourrait incarner un islamisme plus modernisé en Tunisie actuellement.
Croyez-vous à l'existence d'un islamisme modernisé ? Moi je pense que Rachid Ranouchi est aujourd'hui, pour des raisons de pure stratégie politique d'ailleurs, et non pas pour des raisons de conviction idéologique, mais est allé au bout de ce que peut être un islamisme modéré. Au bout.
Oui, par le pragmatisme.
Voilà, donc, et vous parliez des divisions, disons, et d'une rébellion d'une partie de la base du parti Ennahda, c'est justement parce que un certain nombre de dirigeants sont trop modérés aux yeux de la base.
Bien
beaucoup
sûr.
Trop modérés.
Dont le discours de Ranouchi, d'ailleurs, à un moment donné, qui a
donc
su s'adapter.
Oui, c'est un discours à usage externe. Là encore, il y a des doubles discours. Mais moi, j'ajouterais peut-être juste...
Alors, peut-être dans la deuxième partie de l'émission, si vous voulez bien. Sophie Bessis, on redémarre avec vous. Géopolitique, nous retrouvons nos invités. Sophie Bessis, Anne-Clémentine Larocque et Jean-Yves Moisseron dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Tunisie. Nous retrouvons nos invités, Anne-Clémentine Larocque, spécialiste des relations internationales, maître de conférences à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui vient de sortir, L'islamisme au pouvoir, Tunisie, Égypte, Maroc, aux presses universitaires de France. Sophie Bessis, chercheuse associée à l'IRIS, historienne spécialiste du Maghreb. Et Jean-Yves Moisseron, directeur de recherche économiste à l'Institut de recherche pour le développement et rédacteur en chef de la revue Maghreb Machrek. Sophie Bessis, sur Ennahda et la stabilité politique, la question de savoir si elle est menacée aujourd'hui en Tunisie.
Écoutez, d'abord, je crois qu'un des facteurs de mécontentement, ce n'est pas seulement l'âge des leaders, qui est très important. Hein, effectivement, ce sont des leaders du passé, comme le président de la République et le chef du parti Ennahda. Mais c'est aussi cette co-gestion qu'il y a aujourd'hui entre les deux partis dominants à l'Assemblée. Aujourd'hui, on n'est plus en Tunisie dans une cohabitation, mais on est dans une co-gestion du pouvoir, incontestablement, entre le parti Ennahda, son chef, en tout cas les élites Ennahdaouia, et le président de la République, et ce qui reste de son parti, le parti Nidet Tounes, qui, au départ, en 2012, avait été formé contre Ennahda, pour remporter des élections contre Ennahda. Aujourd'hui, on a une co-gestion du pays. Et cette co-gestion du pays, dans la mesure où quand même les soubassements idéologiques ne sont pas tout à fait les mêmes, même s'ils se rapprochent, Nidet Tounes n'est pas un parti laïque, contrairement à ce qu'on peut dire de ce côté-ci de la Méditerranée, il ne l'a jamais été, mais c'est un parti plus séculier, peut-on dire. Et Ennahda a mis, permettez-moi l'expression, de l'eau dans son vin, au niveau de sa direction pour pouvoir co-gérer effectivement les affaires du pays. Voilà. Donc je crois qu'il s'agit d'une stratégie politique plus que d'une mutation radicale.
Stratégie politique, vous partagez, Clémentine?
Oui, alors on vient en voilà. Discuter. Effectivement, stratégie politique, c'est que, enfin, au niveau de la mutation, il y a quand même, je pense, encore une fois, une sociologie du parti qui est en train quand même d'évoluer, et que certaines personnes, certains jeunes Ennahdaouis, peuvent aussi véritablement muter dans leur rapport à la prédication, comme on disait, ou à la référence religieuse. C'est-à-dire qu'il y a plus de pragmatisme. C'est incontestable.
D'autant que vous savez que les ministres Ennahdaouis et que le parti Ennahdaoui s'est parfaitement adapté au pouvoir depuis qu'il est. Et c'est-à-dire que, eh bien, les mangeoires leur sont également ouvertes. Donc, disons, les mangeoires leur étant ouvertes, il faut qu'ils s'adaptent. Et aujourd'hui, quand on regarde la composition du gouvernement tunisien, les postes les plus rémunérateurs, si je puis dire, en possibilité, sont confiés au ministre Ennahdaoui, c'est-à-dire l'économie numérique, c'est-à-dire la coopération internationale et le développement, etc. etc.
La communication.
Donc,
en tout cas,
oui. La communication. Donc là, le parti Ennahdaoui s'est coulé, disons, dans les logiques clientélistes dont vous parliez tout à l'heure, avec une aisance absolue. Et autre facteur de blocage qui découle de celui-là, vous avez plus de 50% de l'économie tunisienne qui est informelle, dont une partie est un informel de type mafieux, nous l'oublions pas, contrebande, grands réseaux mafieux, transnationaux, etc. Donc tout cela est facteur d'immobilisme total. Quand le Premier ministre, en mai dernier, a eu la velléité de vouloir lutter contre la corruption en enfermant quelques barons de l'économie informelle, eh bien, d'où sont venus les missiles les plus brutaux à son égard des deux parties au pouvoir.
Qui n'avaient pas intérêt à ce que les choses
changent. Ça, je crois que c'est très important.
Alors, moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez précédemment, Jean-Yves Moisseron. Il faut, disiez-vous dans la première partie de l'émission, une deuxième révolution. Est-ce qu'on est au début d'une deuxième révolution?
Alors, en fait, ce qu'on vient de développer, de décrire de façon détaillée en regardant le rôle de l'UGTT, du parti Ennahda, etc., c'est finalement la reconstruction d'un pacte social qui lie des forces politiques pour certaines nouvelles qui ont été intégrées finalement dans le jeu politique. C'était aussi des forces économiques, notamment dans le secteur informel. Dans la reconstitution, la continuité, la reproduction finalement d'un certain nombre de privilèges, le clientélisme, la corruption, faut bien comprendre que c'est pas seulement des comportements comportement individuel. La corruption,
c'est un système.
C'est l'envers du clientélisme. C'est-à-dire quand vous avez même au niveau économique la nécessité d'avoir des autorisations, une certaine opacité dans les autorisations administratives, des difficultés à l'accès au financement. Enfin, on voit bien qu'il y a un certain nombre de familles, de forces politiques ou économiques qui contrôlent les choses, qui fait que des jeunes entrepreneurs ont toutes les difficultés à pouvoir investir et faire un certain nombre de choses. Donc le système est bloqué, fonctionne sur beaucoup de clientélisme, et la corruption n'est rien d'autre que le fait d'avoir accès au réseau clientéliste quand vous n'êtes pas de la bonne famille, des réseaux de pouvoir, etc. Donc ça fait partie du système. Et donc il y a cette continuité dans le mode de fonctionnement économique qu'il faut pour le coup cette fois-ci analyser en termes non seulement économiques mais aussi politiques. Et ce système est bloqué. Donc soit l'élite considère que à un certain moment, il faut, y compris pour sauver les meubles, revoir les fondamentaux de cette répartition. Ça veut dire accepter de réduire ses propres privilèges, ouvrir le jeu du marché, accepter qu'il y ait plus de concurrence, plus d'ouverture. Soit, finalement, on arrivera à une situation où, de toute façon, la base se rappellera à la mémoire de tous. C'est-à-dire que ces jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, qui ne trouvent pas d'emploi, on arrive maintenant à des taux de chômage pour les jeunes femmes diplômées de l'ordre de 40%, ce qui est absolument considérable. Eh bien, si ça n'est pas fait par l'élite, ça se fera par la base. Et donc, je pense que cette révolution, cette deuxième révolution socio-économique, elle est nécessaire et elle est devant nous et elle se fera soit de manière pacifique, structurée, organisée, par un certain nombre de réformes, peut-être avec une nouvelle génération politique qui saura mieux se connecter avec la base, soit elle risque de se faire ou elle pourra se faire par la rue, par les mouvements sociaux.
Sophie Bessis.
Juste deux choses. Sur la question des chômeurs diplômés. La question des chômeurs diplômés est une question extrêmement difficile dans la mesure où, d'abord, elle est le résultat d'une dégradation du système éducatif extrêmement importante depuis une vingtaine d'années à peu près. Autant la Tunisie avait formé de bons cadres, un bon encadrement pendant longtemps, le système éducatif s'est dégradé d'une façon terrible du fait aussi de la politique tout à fait démagogique de l'ancien régime qui a ouvert très largement les portes d'une université à la qualité de l'enseignement altérée, ce qui fait qu'aujourd'hui les chômeurs diplômés sont dans une trappe à chômage. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, la Tunisie est restée spécialisée dans des segments bas de gamme des industries de biens manufacturés d'exportation. Pour ça, les diplômés sont trop diplômés. Et vu la qualité de leurs diplômes, pour les rares segments haut de gamme de l'économie tunisienne, ils ne sont pas assez formés. Et donc, ils forment une masse qui est très largement inemployable. Et c'est pas de leur faute, hein, c'est de leur faute de la qualité de l'enseignement. Maintenant, cette histoire de deuxième révolution. Cette base, disons, qui proteste et qui a protesté au cours des dernières semaines. Le grand problème en Tunisie, c'est que si deuxième révolution il devait y avoir, c'est qu'elle serait une révolution beaucoup plus structurée politiquement que ce mouvement qui a chassé la dictature de Ben Ali. Or, les revendications sociales de la population aujourd'hui ne sont prises en charge politiquement par personne. Au niveau des partis, quel qu'il soit, de l'extrême gauche à ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite, il n'y a pas de relais. Et donc, ce à quoi l'on insiste, ce sont des manifestations de type infrapolitique, qui ont des programmes extrêmement flous, et qui n'arrive pas à structurer l'ensemble de ces revendications. Et à mon avis, cette incapacité, du fait de l'absence de relais politiques, est un moins par rapport à cette conjonction extrêmement structurée, en revanche, des intérêts socio-économiques de l'autre côté.
Anne-Clémentine Larocque.
Oui, alors par rapport justement à cette idée de deuxième révolution, souvenez-vous, en 2011, le mot d'ordre, c'était « liberté et dignité ». Par rapport à la liberté, on peut quand même considérer aujourd'hui qu'il y a quand même eu des avancées. La dignité, c'est un autre problème. Moi, je considère toujours quand même qu'il faut, encore une fois, redéfinir ce qu'est une révolution. C'est un processus. Et je parle pas forcément de deuxième révolution, mais en tout cas de deuxième étape du processus révolutionnaire que la Tunisie est en train de vivre. Et c'est vrai que vous avez raison. De toute façon, l'objectif des jeunesses tunisiennes, c'était de changer, de réformer et d'avoir beaucoup plus de dignité au niveau économique et social. Comme en Égypte, la Tunisie, au moment des printemps arabes, n'a pas réussi justement à proposer des réformes. Mais regardez, ils ont quand même mis 3 ans aussi à mettre en place une constitution. Et donc, il y avait quand même un moment un peu fouillis, et ils le reconnaissent eux-mêmes, où il fallait à la fois structurer une nouvelle manière de voir le pouvoir et d'envisager la démocratie, mettre en place des réformes économiques et sociales, et en plus, structurer une constitution. Et c'est vrai qu'on a attendu énormément d'eux. Je pense qu'il faut quand même regarder les choses en face. La réforme économique et sociale, c'est la grande attente des 3-4 années prochaines.
Si le peuple tunisien peut attendre. Mais j'en viens à l'étape d'après. Jean-Yves Moisseron, vous parliez de peut-être l'espoir avec une nouvelle génération d'hommes politiques. Est-ce que l'on peut voir dans les élections municipales de mai prochain, les premières depuis la Révolution, un scrutin qui devrait doter les municipalités de conseils librement élus, déterminer les nouveaux rapports de force politique et reconfigurer la relation entre l'État et les collectivités locales, alors que, on le sait, les disparités régionales alimentent beaucoup les manifestations sociales. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose avec ces élections municipales et celles à venir, l'an prochain, les législatives et présidentielles de 2019, Jean-Yves Moisseron?
Parmi les éléments de cette révolution, il y a évidemment les rapports entre le centre et la périphérie, si je puis dire. C'est-à-dire que l'une des revendications pendant la période révolutionnaire en 2011, ça a été précisément l'espèce de déshérence d'un certain nombre de régions de la Tunisie. Or, ce que l'on a observé depuis 2011, c'est que précisément sur ce plan-là, très peu de choses ont changé. Mais pour moi, c'est assez logique parce que ça fait partie du pacte social. De la même façon que le système économique délaisse les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, de la même façon, elle délaisse des régions qui sont beaucoup moins développées. Donc les structures économiques n'existent pas, la volonté politique de développer n'existe pas, etc. Les acteurs, tous les outils institutionnels qui permettent le développement territorial n'existent pas encore. Donc, effectivement, ces élections municipales, même s'il faut rester prudent parce qu'il y a aussi une espèce d'usure de l'élection. Un des dangers de la Tunisie aujourd'hui, c'est que une grande partie de la population n'aille plus voter, qu'il y ait des taux d'abstention extrêmement élevés parce que les citoyens considèrent précisément que les pactes sociaux qui sont mis en place, de toute façon, même s'il y a une démocratie formelle, ne les concernent pas directement. Alors, peut-être que la démocratie locale, municipale, régionale, la décentralisation, la construction d'acteurs politiques locaux, tout ça permettra de changer les choses. En même temps, j'ai le sentiment, et c'est le message que je veux faire passer, c'est que il ne suffit pas seulement de faire des réformes. Derrière des réformes économiques, derrière ce pacte social, il y a des forces politiques qui s'entendent et donc des privilèges, une répartition du pouvoir, une répartition de la richesse. Et donc, quand on est privilégié, on ne cède pas facilement ses privilèges et on les cède en général dans des rapports de force face à des mouvements de contestation sociale. Et donc, voilà, c'est un peu dans ce contexte que ces élections municipales se posent, à la fois avec la possibilité d'ouverture et en même temps avec toutes les limites que ce type de démocratie formelle peut induire en termes de changement de structure.
Alors, avant de vous demander, l'un et à l'autre, Sophie Bessis a dû partir, si vous êtes pessimiste ou optimiste pour la Tunisie, Jean-Yves Moisseron, Anne-Clémentine Larocque évoquait ce sentiment d'usure très profond aujourd'hui. On en vient aux questions sécuritaires, à la place de la Tunisie dans son environnement régional et au-delà. La Tunisie, premier pays contingent de combattants djihadistes au monde, ça n'est pas un hasard?
Alors, je voudrais juste revenir 2 petites secondes sur les municipales. Il y a la voix aussi d'un peu du troisième homme, mais qui était le premier homme de la révolution aussi, c'est Moncef Marzouki, qui revient avec un nouveau parti et qui parle évidemment d'une reconquête en fait de la Tunisie via les campagnes, via les régions du sud où il a d'ailleurs un certain succès. Donc on a quand même une volonté d'un peu ouvrir le débat par rapport aux deux partis, Ennahda et Nida Tounes, évidemment avec des structures qui étaient déjà mises en place, que Marzouki a évidemment son réseau, mais il y a une volonté quand même de faire un petit peu évoluer les choses. Par rapport à la question sécuritaire, évidemment, elle fait partie intégrante de la stabilité aujourd'hui de la Tunisie et de la représentation aussi qu'on a de la Tunisie à l'extérieur. Il n'y a pas eu d'attentat à peu près depuis 2 ans. Il y a encore aujourd'hui, évidemment, des cellules dormantes, puisque le gouvernement, depuis la loi antiterroriste de 2015, œuvre vraiment à la détection des principaux individus qui sont connectée, il faut le dire, à des structures terroristes islamistes qui sont l'État islamique ou Al-Qaïda. On a encore eu dernièrement, là, le 20 janvier, l'arrestation de Bilal Kobi, qui faisait partie donc d'une phalange d'Acmi située en Tunisie, mais il est algérien lui-même, et on l'a trouvé donc à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, vers Kasserine. Et effectivement, c'est un lieu qui est assez connu parce qu'il y a de nombreuses katibas qui ont pu s'y installer. Hein, l'environnement, je dirais, géographique est propice puisque ce sont des montagnes. Et donc, on a effectivement une question sécuritaire importante, la connexion avec la Libye. Ça, c'est la grande peur des Tunisiens, de toute façon, depuis 2013-2014, et ils ont raison. Mmh. Souvenons-nous, en 2015, après l'attentat de Sousse, fin juin 2015, vous avez une décision qui est prise. Donc, à la hâte, ils votent une loi antiterroriste. Donc, ils arrêtent pas mal de salafistes, ils ferment des mosquées salafistes, mais surtout, ils mettent en place une forme de mur de sable un peu symbolique, plus symbolique qu'autre chose, sur à peu près 140 kilomètres de la frontière est de la Tunisie avec la Libye. Et c'est vrai qu'ils attendent vraiment de la Libye pas mal de choses. Vous savez que Rached Ranouchi s'est quand même beaucoup impliqué dans la négociation, dans la stabilisation justement de ce pays. La Tunisie reste quand même au contact des autorités qui essayent de maintenir la paix et de réhabiliter surtout la paix et la sécurité en Libye. Ils sont tout à fait inquiets parce que ils se savent dépendants en fait de la sécurité et de l'insécurité de cette zone-là, sachant que ils sont quand même aussi de l'autre côté en lien avec l'Algérie. Donc la question sécuritaire, elle est au centre. Bien évidemment, Ennahda s'est aussi servi de cette question-là pour dire, regardez, nous, on lutte contre les terroristes islamistes, donc on a choisi notre camp, donc on n'incarne pas non plus une menace pour la stabilité et la démocratisation en cours. Donc c'est un argument aussi politique aujourd'hui, mais c'est un argument, évidemment, je vous laisse bien sûr le dire, économique, dans la mesure où les investissements sont aussi dépendants, et les investissements étrangers notamment, de cette, en tout cas, obligation de sécuriser les choses. Le tourisme a quand même vraiment, vraiment perdu de son dynamisme depuis 2015, c'est indéniable. Ça, je suis pas spécialiste encore une fois, mais j'ai l'impression que ça reprend un peu quand même dans certaines zones. Mais ils ont quand même beaucoup pâti de cette question sécuritaire. Ouais.
Jean-Yves Moisseron, alors en guise de conclusion.
Oui, alors moi je suis assez optimiste dans le sens où dans les structures profondes de la société tunisienne, il y a eu la démonstration à la fois d'une très grande résilience. Il faut comprendre que la Tunisie a accueilli un nombre absolument considérable de migrants libyens et a résisté. Alors, c'était parfois aussi des gens qui avaient un peu de moyens, etc., mais qui a résisté à des chocs extrêmement extrêmement élevés que nous, peut-être, toute proportion gardée en France, avec des masques comparables, on aurait eu du mal à gérer. C'est aussi une société qui, finalement, a fait le choix du consensus entre guillemets, mais disons d'un équilibre politique, du refus de la violence, avec des niveaux d'éducation élevés, etc. Donc si on analyse tout ça, on peut considérer qu'à long terme il y a des structures résilientes, une capacité à résister et à construire des choses. En même temps, faut pas sous-estimer les facteurs de fragilité, et je crois que de ce point de vue là la Tunisie doit rester pour l'Europe en tout cas un modèle et en tout cas une priorité. C'est-à-dire que si la Tunisie échouait dans son programme politique, si elle revenait soit à l'instabilité soit à une forme de d'état autoritaire, je pense que ça aurait un coût qui dépasserait celui de la Tunisie pour l'ensemble du monde arabe. Et du coup, ça pose la question de notre capacité en tant qu'Européens à aider ce processus démocratique de manière intelligente, c'est-à-dire en lui permettant précisément de changer de régime de croissance, en l'aidant à s'insérer dans l'économie européenne dont elle est extrêmement dépendante de manière beaucoup plus efficace en termes d'innovation et de technologie. Et donc, ça pose la question des relations internationales et de la nature de nos relations avec ce petit pays qui reste un exemple pour nous.
D'ailleurs, juste Anne-Clémentine Larocque, très rapidement. Le déplacement du président de la République, Emmanuel Macron, début février, montre aussi cette volonté d'agir dans ce sens-là, je pense.
La Tunisie doit rester une priorité, ce sera la phrase de conclusion. C'est la fin de Géopolitique. Merci Anne-Clémentine Larocque. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, maître de conférences à Sciences Po. Votre dernier livre qui vient de sortir, L'islamisme au pouvoir, Tunisie, Égypte, Maroc, aux presses universitaires de France. Jean-Yves Moisseron, directeur de recherche économiste à l'Institut de recherche pour le développement et rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek. Et Sophie Bessis, chercheuse associée à l'IRIS, historienne et spécialiste du Maghreb. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand, Marjorie Bertin, Nathalie Laporte. À samedi prochain.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.